Chapitre 10. Déchirante douceur de ce novembre, souriant comme un malade qui se croit enfin en convalescence et jamais n'éprouva pareil bien-être et ne sait pas qu'il est près de son agonie. Mais qu'avez-vous aujourd'hui, Fosca? Que vous arrive-t-il? Pourquoi êtes-vous si fermé avec votre ami? Dites, parlez-moi! Stélio, entrant par hasard à Saint-Marc, l'avait vu adossé à la porte de la chapelle où est le baptistère. Elle était là, seule, immobile, le visage dévoré par la fièvre et par l'ombre, avec des yeux pleins d'épouvante fixés sur les figures terribles des mosaïques qui flamboyaient dans un feu jaune. Derrière la porte, on répétait un chœur et le chant s'interrompait, puis recommençait sur la même cadence. « Non, je vous en prie, laissez-moi seul. J'ai besoin d'être seul, je vous en conjure. » Le son de ses paroles révélait la sécheresse de sa bouche convulsée. Elle fit un mouvement pour se retourner, pour fuir. Il la retint. « Mais parlez, dites au moins une parole que je comprenne. » Elle chercha encore à se dérober, et ce mouvement exprima une indicible souffrance. Elle eut l'aspect d'une créature déchirée par un supplice, torturée par un bourreau. Elle semblait plus misérable qu'un corps attaché à la roue, tenaillé par le fer brûlant. « Je vous en conjure, si je vous fais pitié, la seule chose qu'à présent vous puissiez pour moi, c'est de me laisser partir. » Elle parlait à voix basse, et qu'elle ne cria pas, que de sa gorge ne sortissent pas des hurlements et des râles, cela paraissait une chose non humaine, tant était visible le spasme de toute cette âme bouleversée. « Une parole, au moins une parole, que je comprenne !» Une flamme de fureur ponta sur ce visage défait. « Non, je veux être seul !» Sa voix fut aussi dure que son regard. Elle tourna les épaules, fit quelques pas comme une personne saisie par le vertige et qui se hâte vers un appui. « Foscarina !» Mais il n'osa pas la retenir. Il vit la désespérée cheminer dans la zone de soleil qui, par la porte, couvrait une main inconnue, envahit la basilique avec l'impétuosité d'un rentant torrent. La profonde caverne d'or, avec ses apôtres, avec ses martyrs, avec ses bêtes sacrées, scintilla toute derrière elle, comme si les mille torches du jour s'y fussent précipitées. Le chant s'arrêta, puis recommença. J'étouffe de tristesse. La violente envie de me révolter contre mon sort, de m'en aller à l'aventure, de chercher, mais qui sauvera mon espérance? De qui me viendra la lumière? Chantez, chantez, mais je voudrais enfin chanter un chant de vie. Sauriez-vous me dire où se trouve à présent le maître du feu? Elle les portait imprimées dans les yeux, imprimées dans l'âme, les paroles que contenait la lettre Donatella Arvale, avec toutes les particularités de l'écriture, avec toutes les singularités, les caractères vivantes comme la main qui les avait tracées, palpitantes comme ce poignet impatient. Elle les voyait gravées sur les pierres, dessinées dans les nuages, reflétées dans les eaux, indélébiles et imitables comme les arrêts du destin. Mais où irais-je? Où irais-je? À travers son agitation et sa désespérance, lui arrivait la douceur des choses, la tiédeur des marbres dorés, l'odeur de l'air calme, la langueur des loisirs humains. Elle regarda une fable du peuple enveloppée dans sa mante brune, assise sur les marches de la basilique, ni vieille, ni jeune, ni belle, ni laide, qui jouissait du soleil et mangeait un grand morceau de pain, dont elle détachait les bouchées avec ses dents et qu'elle mâchait ensuite avec lenteur, les yeux mi-clos pour savourer ce bien, tandis que ses sourcils blonds luisaient en haut de ses joues. Oh, mais si je pouvais me changer en toi, prendre ton sort, me contenter de soleil et de pain, ne penser plus, ne souffrir plus. Le repos de cette pauvre femme lui sembla une félicité infinie. Elle se retourna avec un sursaut, craignant et espérant d'être suivie par l'aimé. Elle ne l'aperçut pas. Elle aurait fui si elle l'avait aperçu. Mais elle eut le cœur serré, comme s'il l'envoyait à la mort sans un mot de rappel. Tout est fini. Elle perdait toute mesure et toute certitude. Les idées passaient en elle, rompues et entraînées confusément par l'angoisse, comme les plantes et les pierres dans le ravage d'un fleuve débordé. En chaque aspect des choses, ses yeux égarés voyaient une confirmation de l'arrêt qui la condamnait, ou une obscure menace de nouveaux malheurs, ou un symbole de son état, ou une signification d'occulte vérité qui devait agir cruellement sur son existence. Au coin de Saint-Marc, près de la porte de la carte, elle sentit vivre, comme s'ils eussent été de sombre sang, les quatre rois de Porphyre qui s'embrassent pour un pacte avec un seul bras, tandis que leurs poings durs serrent le glaive dont la garde se termine en bec d'épervier. Les innombrables veines des marbres divers dont est incrusté le flanc du temple, ces trames confuses de couleurs variées, ces labyrinthes et ces méandres qui s'enchevêtrent, furent pour elle comme une image visible de sa propre diversité intérieure, de la confusion même de ses pensées. Tour à tour, elle avait la sensation que les choses étaient étrangères, lointaines, inexistantes, puis familières, voisines, participant à sa vie secrète. Tour à tour, elle croyait se trouver en des lieux inconnus, puis au milieu de formes qui lui appartenaient comme si elle les eût composées de sa propre substance. Pareille à l'agonisante, elle était illuminée tout à coup par des images de son enfance, la plus reculée, par des souvenirs d'événements très anciens, par l'apparition rapide et nette d'un visage, d'un geste, d'une chambre, d'un paysage. Et par-dessus tous ces fantômes, dans un champ d'ombre, les yeux maternels la regardaient, cléments et forts, pas plus grands que les yeux humains lorsqu'ils vivent sur terre, mais pourtant infinis comme un horizon vers lequel il leur est appelé. Mais vais-je te rejoindre? M'appelles-tu vraiment pour la dernière fois? Elle était entrée sous la porte de la carte, avait traversé le porche. L'ivresse de sa douleur la ramenait au point où, dans une nuit de gloire, les trois destins s'étaient rencontrés. Elle se dirigea vers le puits du rendez-vous. Autour de cette margelle de bronze, toute la vie de ces quelques instants ressuscita pour elle avec l'évidence et le relief de la réalité. C'était là que, s'adressant à sa compagne, avec un sourire, elle avait dit: Donatella, voici le maître du feu. L'immense cri de la multitude avait couvert sa voix, et sur leur tête, le ciel s'était embrasé de mille colombes ardentes. Elle s'approcha du puits. Pendant qu'elle le considérait, les moindres détails s'imprimaient dans son esprit et prenaient une étrange force de vie fatale. Le sillon creusé dans le métal par les cordes, l'oxyde vert qui rayait la pierre de la base, les seins des cariatides usés par les genoux des femmes qui jadis les avaient pressés dans l'effort pour atteindre, et ce profond miroir intérieur qu'elle ne troublait plus le heurt des sceaux, et ces étroits disques souterrains qui reflétaient la divinité du ciel. Se penchant sur le bord, elle vit son visage, elle vit son épouvante et sa perdition, elle vit la méduse immobile qu'elle portait au centre de son âme. Sans le savoir, elle répétait l'acte de celui qu'elle aimait. Et elle vit aussi le visage de l'aimé, et le visage de Donatella, tel qu'elles avaient vu resplendir un instant cette nuit-là, l'un à côté de l'autre, allumés par les feux célestes comme s'ils eussent été penchés sur une fournaise ou sur un volcan. Ben, aimez-vous, aimez-vous, moi, je m'en irai, je disparaîtrai, adieu. Elle ferma les paupières sur cette pensée de mort, et dans l'obscurité reparurent les yeux cléments et forts de sa mère, infinis comme un horizon de paix. Mais tu es en paix et tu m'attends, toi qui vécus et mourus de passion. Elle se redressa. Un extraordinaire silence occupait la cour déserte. La richesse des hautes murailles sculptées reposait moitié dans l'ombre et moitié dans la lumière. Les cinq mitres de la basilique surpassaient l'enceinte aussi légère que les nuages de neige qui faisaient paraître le ciel plus bleu comme les fleurs du jasmin font paraître les feuilles plus vertes. De nouveau, à travers son tourment, elle fut touchée par la douceur des choses. Mais la vie pourrait encore être douce. Elle sortit sur le môle, descendit dans une gondole, se fit conduire à la Giudecca. Le bassin, la salute, le quai des esclavons, toute la pierre et toute l'eau étaient un miracle d'or et d'opale. Elle regarda anxieusement sur la piazzetta si elle n'y verrait point apparaître une figure. Sa mémoire lui représenta dans un éclair l'image de la saison défunte, vêtue d'or et enfermée dans une enveloppe de verre opalin. Elle s'imagina elle-même submergée au fond de la lagune, couchée sur un lit d'algues. Mais le souvenir de la promesse faite sur cette eau et accompli dans le délire nocturne, lui traversa le cœur comme un coup de poignard, la rejeta de nouveau dans l'horrible convulsion. Jamais plus, alors jamais plus. Et tous ses sens sur le ressouvenir de toutes les caresses, la bouche, les mains, la force, l'ardeur du jeune homme, passèrent dans son sang comme s'il se dissolvait en elle. Le poison la brûla jusqu'aux fibres les plus profondes. Avec lui, elle avait trouvé, à l'extrême limite de la volupté, une ivresse qui n'était pas encore la mort et qui déjà outrepassait la vie. Jamais plus, alors, jamais plus. Elle arrivait au Rio de la Croce. La verdure débordait sur une muraille rouge. La gondole s'arrêta devant une porte close. Elle débarqua, chercha une petite clé, ouvrit, entra dans le jardin. C'était son refuge, le lieu secret de sa solitude, défendu par la fidélité de ses mélancolies comme par des gardiennes taciturnes. Elles vinrent toutes à sa rencontre, les anciennes et les récentes. Elles l'entourèrent, marchèrent après d'elle. Avec ses longues treilles, avec ses cyprès, avec ses arbres fruitiers, avec ses buissons de lavande, avec ses oléandres, avec ses œillets, avec ses rosiers, pourpre et safran, merveilleusement doux et alangui dans les couleurs de sa dissolution, ce jardin semblait perdu à l'extrême lagune, dans une île oubliée par les hommes, à Mazzorbo, à Torcello, à San Francesco del Deserto. Le soleil l'embrassait et le pénétrait de toutes parts, tellement que, par leur ténuité, les ombres n'y paraissaient pas. Si grande était la tranquillité de l'air que les pampres secs ne se détachaient pas des sarments. Aucune feuille ne tombait, bien que tous fussent mouvantes. Jamais plus. Elle chemina sous les treilles, s'approcha de l'eau, s'arrêta sur la berge herbeuse, se sentit fatiguée, s'assit sur une pierre, serra ses tempes entre ses paumes. fit un effort pour se recueillir, pour reprendre la domination d'elle-même, pour examiner, pour délibérer. Il est ici encore, il est tout près, je puis le revoir. Peut-être le retrouverai-je tout à l'heure sur le seuil de ma porte. Il me prendra entre ses bras, me baisera les yeux et les lèvres, me répétera qu'il m'aime, que tout en moi lui plaît. Il ne sait pas, il ne comprend pas. Rien n'est arrivé d'irréparable. Mais alors quel est donc le fait qui me bouleverse et me brise? J'ai reçu une lettre écrite par une créature qui est au loin, prisonnière dans une villa solitaire, près de son père dément, et qui se plaint de son état et qui aspire à le changer. Voilà le fait, il n'y a pas autre chose. Et la lettre, la voici. Elle l'a pris, il la déplia pour la relire. Ses doigts tremblaient et elle croyait sentir l'odeur de Donatella, comme si elle avait eu la jeune fille à son flanc, sur cette pierre. Est-ce qu'elle est belle, véritablement belle? Comment est-elle? D'abord, les traits de l'image se confondaient. Elle essayait de les ressaisir et ils s'évanouissaient. Avant tous les autres, une particularité se fixa, devint précise, évidente. La main, grande et lourde. Cette main, l'a-t-il vue ce soir-là? Il est très sensible à la beauté des mains. Quand il rencontre une femme, il les regarde toujours. N'adore-t-il pas les mains de Sophia? Elle se laissa distraire par ses considérations puériles, s'y attarda quelques moments, puis elle en sourit avec amertume. Et tout à coup l'image s'intégra, vécut, brilla de puissance et de jeunesse, l'attira, l'éblouit. Elle est belle, et elle est belle comme il la veut. Elle resta les yeux fixés sur la muette splendeur des eaux, avec la lettre sur les genoux, clouée par la vérité inflexible. Et sur ce découragement inerte, fulguraient d'involontaires images de destruction. Le visage de Donatella était brûlé dans un incendie, son corps estropié par une chute, sa voix altérée par une maladie. Elle eut horreur d'elle-même. Et puis elle eut pitié d'elle-même et de l'autre. Mais n'a-t-elle pas le droit de vivre? Qu'elle vive, qu'elle aime, quelle est sa joie? Elle imagina pour la jeune fille une aventure magnifique, un amour heureux, un fiancé adorable, la prospérité, le luxe, le plaisir. N'y a-t-il donc sur terre qu'un seul homme qu'elle puisse aimer? Serait-il impossible qu'elle rencontrât demain celui qui lui prendra le cœur? Sera-t-il impossible que tout à coup ce destin se tournât d'un autre côté, l'entraînât bien loin, la conduisît sur une route inconnue, la séparât de nous à jamais? Est-il donc nécessaire qu'elle soit aimée par l'homme que j'aime? Oh, il est possible qu'ils ne se rencontrent plus. Ainsi tâchait-elle d'échapper à son pressentiment. Mais un esprit contraire lui disait: mais ils se sont rencontrés une fois, ils se chercheront, se rencontreront encore. Elle n'a pas l'âme obscure qui se perd dans la multitude ou disparaît par un sentier détourné. Elle possède un don qui resplendit comme un astre et qui toujours la fera reconnaître de loin, son chant. Le prodige de sa voix lui servira de signal. Cette vertu qui est sienne, elle la fera certainement valoir dans le monde. Elle passera, elle aussi, au milieu des hommes, en laissant derrière elle un sillage d'admiration. Comme elle a la beauté, elle aura la gloire. Deux phares dont l'appel attirera facilement Stelio. Ils se sont rencontrés une fois, ils se rencontreront encore. L'affligée se courba comme sous un joug. À ses pieds, les brins d'herbe recevaient les rayons et semblaient les retenir, de sorte qu'ils respiraient dans une lumière verte colorée par eux-mêmes de leur calme transparence. Elle sentit les pleurs monter dans ses yeux. À travers ce voile, elle regarda la lagune qui trembla de ce tremblement. Une clarté de perles était comme une béatitude des eaux. Les îles de la folie, San Clemente et San Servilio, étaient enveloppées dans une pâle vapeur. Et de temps à autre, elles envoyaient à travers le lointain des cris sourds, comme de naufragés perdus dans la bonasse, auxquels répondait tantôt le hurlement d'une sirène, tantôt la rauque risée des mouettes éparses. Le silence devenait terrible, puis se faisait très doux. Elle retrouva sa bonté profonde. Elle retrouva sa tendresse pour la belle créature en qui elle avait naguère trompé son besoin d'aimer, Sophia, la bonne sœur. Elle repensa aux heures passées dans la villa solitaire, sur cette colline de Settignano où Lorenzo Alvale créait ses statues dans la plénitude de la force et de la ferveur, ignorant le coup de foudre qui allait le frapper. Elle revécut ce temps-là, revit ces lieux. Elle posait devant le fameux artiste qui la modelait dans la glaise, et Donatella chantait quelques chansons anciennes, et l'esprit du chant animait le modèle et l'effigie, et ses propres pensées, et la pure voix et le mystère de l'art composaient une apparence de vie divine dans ce grand atelier ouvert de toutes parts à la clarté du ciel, et d'où l'on apercevait, au fond de la vallée printanière, Florence et son fleuve. Outre le reflet de Sophia, quelle autre chose encore l'avait attirée vers cette jeune fille qui n'avait pas connu la caresse de sa mère partie du monde en lui donnant le jour? Elle le revoyait grave et immobile à côté de son père, consolatrice du noble labeur, gardienne de la flamme sacrée et aussi d'une secrète volonté propre qui devait se conserver luisante et tranchante comme une épée dans le fourreau. Elle est sûre d'elle-même, elle est maîtresse de sa force. Quand elle se sentira libre, elle se révélera dominatrice. Elle est faite pour subjuguer les hommes, pour exciter leur curiosité et leurs rêves. Déjà, son instinct la dirige, hardi et prudent comme à l'expérience. Et elle se représenta l'attitude que la cantatrice avait eue cette nuit-là, en face de Stelio. La taciturnité presque dédaigneuse, les paroles brèves et sèches, et la façon de quitter la table, de sortir du cénacle, de disparaître pour toujours en laissant son image enclose dans le cercle d'une mélodie inoubliable. Oh, elle connaît l'art de troubler l'âme des rêveurs. Oh, certainement, il ne peut pas l'avoir oubliée. Certainement, il attend l'heure où il lui sera donné de la rejoindre. Et il n'est pas moins impatient qu'elle, qui me demande où il est. Elle reprit la lettre et se mit à la parcourir. Mais sa mémoire devançait la rapidité de ses yeux. La question énigmatique était au bas de la page comme un post-scriptum presque dissimulé. En revoyant l'écriture, elle éprouva la même souffrance aiguë que la première fois. Et de nouveau, tout se bouleversa dans son cœur, comme si le péril était imminent, comme si sa passion et son espérance étaient déjà perdues, sans ressources. Que va-t-elle faire? Quelle est sa pensée? Elle s'attendait peut-être à ce qu'il alla aussitôt la rejoindre, et déçue, elle veut maintenant le tenter. Mais que va-t-elle faire? Elle s'acharnait contre cette incertitude, comme contre une porte de fer qu'il lui fallut ouvrir de force pour recouvrer la lumière de sa vie. Lui répondrai-je? Et si je lui répondais de façon à lui faire comprendre la vérité? Serait-il possible que mon amour fût pour le sien une prohibition? Mais son âme se souleva de répugnance, de pudeur et de fierté. Oh non, 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 jamais elle n'apprendra de moi ma blessure, jamais, pas même si elle m'interrogeait. et elle sentit toute l'horreur de la rivalité avouée entre l'amante qui n'est plus jeune et la vierge qui est forte de sa jeunesse intacte. Elle sentit l'humiliation et la cruauté de cette lutte inégale. Mais si ce n'était pas elle, lui disait un esprit contraire, ne serait-ce pas une autre? Crois-tu donc pouvoir conserver à ta triste passion un homme d'une telle nature? La seule condition qui t'aurait permis de l'aimer et de lui offrir ton amour fidèle jusqu'à la mort, c'était de maintenir le pacte que tu as violé. C'est vrai, murmura-t-elle, comme si elle eût répondu à une voix distincte, à un arrêt formel prononcé dans le silence par le destin invisible. La seule condition à laquelle il puisse maintenant accepter ton amour et le reconnaître, c'est que tu le laisses libre, que tu renonces à la possession, que toujours tu dors tout et que jamais tu ne réclames rien, à la condition d'être héroïque, as-tu compris ? C'est vrai, répéta-t-elle en relevant le front. Toute sa beauté morale resplendissait au sommet de son âme. Mais le poison la mordit. Une fois encore, tous ses sens furent le ressouvenir de toutes les caresses. La bouche, les mains, la force, l'ardeur du jeune homme passèrent dans son sang comme s'ils se dissolvaient en elle. Et elle resta là, immobile dans sa souffrance, muette dans sa fièvre, la chair et l'âme consumées comme ces pampres rouges et tachetées qui semblaient brûler par les bords à la façon des papiers jetés sur la braise. Alors, un chant lointain flotta dans l'air sans changement, trembla dans la stupeur immense, un chant de voix féminine qui semblait sortir de poitrines brisées, de gorges fendues comme de fragiles roseaux, pareil à ces sons qui s'éveillent dans le fond des vieilles épinettes aux cordes affaiblies, lorsqu'une main empresse les touches usées, un chant inégal et strident, sur un rythme vulgaire et allègre qui était triste comme les plus tristes choses de la vie, dans cette immobilité, dans cette lumière. Qui chante ? Avec une émotion obscure, elle se leva, s'approcha de la rive, tendit l'oreille pour écouter. « Ah, ce sont les folles de San Clemente !» Il arrivait de cette île de la folie, de la folle de cet hospice clair et désolé, des fenêtres grillées de la terrible prison, le cœur allègre et lugubre, qui tremblait, hésitait dans l'immensité extatique, devenait presque enfantin, s'affaiblissait, allait s'évanouir, puis de nouveau s'élevait, se renforçait, grinçait, se faisait presque déchirant, puis s'interrompait comme si toutes les cordes vocales se fussent brisées en même temps, remontait comme un cri de torture, comme un rappel de naufrages éperdus qui voit passer à l'horizon un navire, comme une clameur de moribond, puis s'éteignait, finissait et ne ressuscitait plus. Déchirante douceur de ce novembre souriant comme un malade à qui la souffrance accorde une trêve, et qui sait que c'est la dernière, et qui savoure la vie empressée à lui découvrir avec une grâce nouvelle ses plus délicates saveurs au moment de l'abandonner, et dont le sommeil diurne ressemble à celui d'un petit enfant qui, plein d'un lait léger, s'endormirait sur les genoux de la mort. Regardez là-bas, Foscarina, les monts Euganéens. Si le vent se lève, ils vont s'envoler dans les airs comme des voiles et passeront sur notre tête. Je ne les ai jamais vus si transparents. Je voudrais un jour aller avec vous à Arcoa. Là-bas, les visages sont roses comme les coquilles que l'on y trouve dans la terre par myriades. Lorsque nous arriverons, les premières gouttes d'une petite pluie soudaine enlèveront quelques pétales aux fleurs des pêchers. Pour ne pas nous mouiller, nous nous arrêterons sous un arc de Palladio. Puis, sans demander la route à personne, nous chercherons la fontaine de Pétrarque. Nous emporterons avec nous les rimes dans la petite édition de Michelini, le livre minuscule que vous gardez à votre chevet et qui maintenant ne peut plus se fermer parce qu'il est gonflé d'herbe comme un bervier de poupée. Voulez-vous qu'un jour de printemps nous allions à Arcoing? Elle ne répondait rien, mais elle regardait les lèvres qui disaient toutes ces choses gentilles. Et sans espérance, elle prenait à cet accent et à ce mouvement rien de plus à un plaisir fugitif. Pour elle, dans ces images de renouveau et dans une sextine de Pétrarque, il y avait là le même enchantement lointain. Mais dans la sextine, elle pourrait mettre un signet pour la retrouver, tandis que les images se perdaient avec l'heure qui passe. Oh, je ne boirai pas à cette fontaine, voulut-elle répondre, mais elle se tut pour jouir doucement de cette caresse. Oh oui, enivre-moi d'illusions, joue ton jeu, fais de moi ce qu'il te plaît. Oh, voilà San Giorgio in Alga, nous serons à Fusina dans quelques minutes. La petite île murée passa devant eux avec sa madone de marbre, qui se mirent perpétuellement dans l'eau comme une nymphe. Pourquoi êtes-vous si douce, mon ami? Jamais je ne vous ai vu comme cela. En vous, aujourd'hui, on ne touche pas le fond. Je ne saurais vous dire quel sentiment d'indéfinissable mélodie je trouve aujourd'hui dans votre présence. Vous êtes ici, près de moi. Je prends votre main et cependant vous êtes diffuse aussi dans l'horizon. Vous êtes l'horizon avec les eaux, avec les îles, avec les collines que je voudrais gravir. Quand je parlais tout à l'heure, il me semblait que chacune de mes syllabes créait en vous des cercles, se dilatant à l'infini comme ceux que vous voyez là, autour de cette feuille tombée de cet arbre tout en or. Est-ce vrai? Mais dites que c'est vrai, ou regardez-moi. Il se sentait enveloppé par l'amour de cette femme comme par l'air et par la lumière. Il respirait dans cette âme comme dans un élément, et il en recevait une ineffable plénitude de vie, comme si d'elle et des profondeurs du jour naissait le même fleuve de choses mystérieuses et que ce fleuve se déversât dans son cœur débordant. Le besoin de rendre la félicité qui lui était donnée l'élevait à un degré de reconnaissance presque religieux et lui suggérait des parfums de gratitude et de louange qu'il aurait prononcés s'il eût été agenouillé devant elle dans l'ombre. Mais la splendeur du ciel et des eaux s'était faite si grande aux alentours qu'il se tut comme elle se taisait. Et ce fut pour tous les deux une minute d'émerveillement et de communion dans la lumière. Ce fut un voyage bref et pourtant immense où ils franchirent les vertigineux espaces qu'ils avaient au-dedans de leur âme. Le bateau aborda au rivage de Fusina. Réveillés, ils se regardèrent avec des yeux éblouis et ils éprouvèrent tous les deux une sorte d'égarement qui ressemblait à la désillusion quand ils mirent le pied à terre. Quand ils virent ce rivage abandonné où poussaient de rares herbes pâles. Et les premiers pas leur furent fâcheux parce qu'ils sentirent le poids de leur chair qui leur avait paru s'alléger dans le trajet fluide. Mais ils m'aiment donc! Au cœur de la femme se ravivait la peine avec l'espérance. Elle ne doutait pas que l'ivresse de l'aimé fût sincère, que ses paroles répondissent à une ferveur interne. Elle savait combien il s'abandonnait entièrement à chaque onde de sa sensibilité, combien il était incapable de simulation et de mensonge. Plus d'une fois, elle l'avait entendu proférer les vérités cruelles avec cette même grâce flexible et féline qu'ont dans le mensonge certains hommes adonnés à la séduction. Elle connaissait bien ce regard limpide et droit, qui par instant devenait glacial ou dur, mais qui jamais ne devenait oblique. Seulement, elle connaissait aussi la rapidité et la diversité merveilleuse d'émotions et de pensées qui rendaient cet esprit insaisissable. Il y avait toujours en lui quelque chose d'ondoyant, de mobile et de vigoureux qui lui suggérait l'image double et diverse de la flamme et de l'eau. Et elle voulait l'atteindre, le captiver, le posséder. Oh, il y avait toujours en lui une ardeur démesurée de vivre, comme si chaque seconde lui eût paru la dernière et qu'il eût été sur le point de s'arracher à la joie et à la douleur de l'existence, ainsi qu'on s'arrache aux caresses et aux larmes d'un adieu d'amour. Et c'était à cette avidité insatiable qu'elle voulait suffire elle seule. Qu'est-ce qu'elle était donc pour lui, sinon un aspect de cette vie aux mille mille visages, vers laquelle son désir, selon une figure de sa poésie, agitait continuellement tous ses tirses. Pour lui, elle était un motif de vision et d'invention, comme les collines, comme les bois, comme les orages. En elle, il buvait le mystère et la beauté, comme en toutes les formes de l'univers. Et voilà que déjà il s'était éloigné, que déjà il était occupé à une recherche nouvelle. Ses yeux ingénus et mobiles cherchaient aux alentours le miracle pour s'émerveiller et pour adorer. Elle le regarda sans que lui-même tournât vers elle son visage attentif à considérer les campagnes humides et vaporeuses que la voiture parcourait lentement. Elle était là, privée de toute force, incapable désormais de vivre en soi et pour soi, de respirer avec son propre souffle, de suivre une pensée qui fût étrangère à son amour, hésitant même à jouir des choses naturelles qu'il ne lui aurait pas indiquées, ayant besoin d'attendre qu'il lui communiquât ses rêves pour incliner vers ses campagnes son cœur souffrant. Sa vie semblait se dissoudre et se contracter tour à tour. Une minute d'intensité s'évanouissait, et elle en attendait une autre. Et entre l'une et l'autre, elle n'avait que le sentiment du temps qui fuit, de la lampe qui se consume, du corps qui se fane, des innombrables choses qui se corrompent et périssent. Mon ami, dit tout à coup Stelio en se tournant vers elle et en lui prenant la main avec une émotion qui lui était montée peu à peu jusqu'à la gorge et qui le suffoquait. Pourquoi sommes-nous venus en ces lieux? Ils semblent si doux et ils sont pleins d'épouvante. Il fixait sur elle ce regard qui de temps à autre apparaissait dans ses yeux, soudain comme un pleur, avec ce regard qui atteignait chez autrui le secret même de la conscience et descendait jusqu'à la plus intime obscurité de l'inconscience, profond comme celui d'un vieillard, profond comme celui d'un enfant. Et elle en tremblait comme si son âme eût été une larme de ses cils. « Tu souffres ?» lui demanda-t-il avec une pitié inquiète qui la fit pâlir. « Tu sens cette épouvante ?» Elle regarda autour d'elle avec l'anxiété d'une personne poursuivie et crut voir surgir de la campagne mille fantômes funestes. « Mais ces statues !» dit Stelio avec un accent qui les transforma aux yeux de cette femme en témoin de sa propre ruine. Et la campagne s'étendait autour d'eux, silencieuse comme si les habitants eussent déserté depuis des siècles ou que tous dormissent couchés depuis la veille dans leurs fosses. « Veux-tu que nous revenions en arrière? Le bateau est encore là. » Mais elle semblait ne pas entendre. « Réponds, Fascalina. » « Allons, allons, répondit-elle. En quelque endroit qu'on aille, le sort ne change pas. » Son corps s'abandonnait au mouvement des roues, au roulement berceur, et craignait de l'interrompre et répugnait au plus léger effort, à la plus petite fatigue, dominée par une pesante inertie. Son visage était comme ces délicates couches de cendre qui se forment autour des braises allumées et qui envoient la consomption. Chère, chère âme, dit-il en s'inclinant vers elle et en effleurant de ses lèvres la joue blême, serre-toi contre moi, abandonne-toi à moi avec confiance. Je ne te manquerai pas et tu ne me manqueras pas. Nous la trouverons, cette vérité secrète sur laquelle notre amour-propre saura se reposer à jamais et immuable. Ne sois pas fermée pour moi. Ne souffre pas seul, ne me cache pas ton tourment. Parle-moi quand ton cœur se gonfle de chagrin. Laisse-moi croire que je pourrais te consoler. Ne nous taisons rien l'un à l'autre, ne nous cachons rien. J'ose te rappeler un pacte que tu as imposé toi-même. Parle-moi et toujours je te répondrai sans mentir. Laisse-moi venir à ton aide, moi qui ai reçu de toi si grand bien. Dis-moi que tu n'as pas peur de souffrir. Je crois ton âme capable de supporter toute la douleur du monde. Mais fais que je ne perde pas ma foi en cette force de passion par laquelle souvent tu m'es apparue divine. Dis-moi que tu n'as pas peur de souffrir. Je me trompe peut-être, mais j'ai senti en toi une ombre, comme une volonté désespérée de t'éloigner, de te dérober, de trouver un dénouement. Mais pourquoi? Pourquoi? Et tout à l'heure, tandis que je regardais cette désolation terrible qui nous sourit, une grande épouvante m'a tout à coup serré le cœur. J'ai pensé que ton amour aussi pourrait changer comme toutes les choses passées, se dissoudre. Tu me perdras. Ah, mais cette parole, c'est toi qui l'as dite, mon ami. Elle est sortie de tes lèvres. Elle ne répondait pas. Et pour la première fois depuis qu'elle aimait, les paroles de l'aimé lui semblaient vaines, lui semblaient d'inutiles sons qui agitaient l'air, mais n'avaient aucun pouvoir. Pour la première fois, il lui sembla que l'aimé lui-même était une faible et anxieuse créature, courbée sous les lois inéluctables. Elle eut pitié de lui comme d'elle-même. Voilà qui lui imposait, lui aussi, la condition d'être héroïque, le pacte de la douleur et de la violence. Au moment même où il essayait de la consoler et de la réconforter, il lui prédisait les fortes épreuves, la préparait au supplice. Mais que valait le courage? Que valait l'effort? Que pouvaient valoir les misérables agitations humaines? Et pourquoi donc pensait-il à l'avenir, au lendemain incertain? Le passé régnait seul autour d'eux, et eux-mêmes n'étaient rien, et tout n'était rien. Nous sommes des moribonds, toi et moi, nous sommes deux moribonds. Allez, nous rêvons et nous mourrons. Oh, tais-toi, lui dit-elle avec un léger souffle, comme si elle eût cheminé dans une nécropole. Et à fleur de lèvres, un sourire apparut, presque imperceptible, pareil à celui qui était diffus dans les campagnes. Et ce sourire se fixa sur sa bouche, il demeura immobile, comme sur les lèvres d'un portrait. Les roues glissaient, glissaient sur la route blanche le long des berges de la Brenta. Le fleuve magnifique et glorieux dans les sonnets des abbés galants, à l'époque où sur ses eaux courantes descendaient les bateaux pleins de musique et de plaisir, avait maintenant l'humble aspect d'un canal où barbotaient en bandes les canards verts et bleus. Par toute la plaine basse et mouillée, les champs fumaient, les plantes se dépouillaient, les feuilles pourrissaient dans l'humidité de la glèbe. Une lente vapeur d'or flottait sur l'immense décomposition végétale qui semblait atteindre aussi les pierres, les murs, les maisons et les défaire comme les feuilles. Depuis la Foscara jusqu'à la Barbariga, les villas brassières, où la vie aux pâles veines délicatement empoisonnée par les fards et les parfums s'était éteinte en badinage langoureux sur un grain de beauté, sur un barbet ou sur un bombé, se désagrégeait dans l'abandon et dans le silence. Plusieurs avaient l'aspect de la ruine humaine avec leurs ouvertures vides qui ressemblaient aux orbites aveugles, aux boucles édentées. D'autres, à première vue, semblaient sur le point de se réduire en miettes et en poussière, comme les chevelures des mortes quand on découvre leur tombe, comme les vieux vêtements rongés par les mites quand on ouvre les armoires depuis longtemps fermées. Les murs d'enceinte étaient renversés, les pilastres brisés, les grilles tordues, les jardins envahis par les cultures potagères. Mais çà et là, tout près, au loin, partout, dans les vergers, dans les vignes, parmi les choux argentés, parmi les légumes, au milieu des pâturages, sur les tas de fumier et de mares de raisins, sous les moules de paille, au seuil des chaumières, partout dans la campagne fluviale, se dressaient les statues survivantes. Elles étaient innombrables, tout un peuple dispersé, blanches encore ou grises ou jaunes de lichen, ou verdies par les mousses ou bigarrées de taches, et dans toutes les attitudes et faisant tous les gestes, déesses, héros, nymphes, saisons, heures, avec leurs arcs, avec leurs flèches, avec leurs guirlandes, avec leurs cornes d'abondance, avec leurs torches, avec tous les emblèmes de la puissance, de la richesse et du plaisir, exilés des fontaines, des grottes, des labyrinthes, des berceaux, des portiques, amis du buis et du myrte toujours verts, protectrices des amours fugitives, témoins des serments éternels, figures d'un rêve beaucoup plus ancien que les mains qui les avaient formées et que les yeux qui les avaient contemplées dans les jardins détruits. Et sous le soleil de ce tardif été des morts, leurs ombres qui s'allongeaient peu à peu sur la campagne semblaient être les ombres de l'irrévocable passé, de ce qui n'aime plus, de ce qui ne rit plus, de ce qui ne pleure plus, de ce qui ne revivra jamais plus et de ce qui ne reviendrait jamais plus. Et la muette parole sur leurs lèvres de pierre était la même que disait l'immobile sourire sur les lèvres de la femme fanée. Rien!